autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lechowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver en excellente compagnie cet été avec les plus grandes voix de la recherche que nous avons eu la chance et le plaisir de vous faire entendre ces 10 dernières années autour de toutes les questions possibles et imaginables. Et s'il y a un chercheur humaniste qui vous a inspiré, chers amis auditeurs et auditrices, c'est bien le philosophe Edgar Morin. Ce formidable penseur de la complexité internationalement reconnu, aujourd'hui âgé de 99 ans, mais les idées plus claires que jamais, est l'auteur d'une œuvre immense. On ne citera que les 6 tomes de la méthode, traduite et enseignée dans le monde entier. Car ce philosophe interdisciplinaire et très indiscipliné a toujours défriché des territoires nouveaux et n'a cessé de s'interroger en esprit absolument libre et curieux sur tous les chemins de la connaissance. Je cite Edgar Morin. « Je vis de plus en plus avec la conscience et le sentiment de la présence de l'inconnu dans le connu, de l'énigme dans le banal, du mystère en toute chose et notamment des avancées d'une nouvelle ignorance dans chaque avancée de la connaissance. » Connaissance, ignorance, mystère. C'est le titre d'un de ses derniers essais autour duquel nous avions eu le grand plaisir de le recevoir en direct en mai 2017. Son œil pétillant, sa curiosité toujours en éveil et son sourire malicieux nous avaient évidemment conquis. Nous vous proposons donc de réécouter cet entretien qui n'a pas pris une ride autour de la question « Que peut-on connaître de la réalité ?» Bienvenue pour partager la pensée d'Edgar Morin. Bonjour Edgar Morin.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. C'est un grand plaisir, un honneur de recevoir le philosophe engagé que vous êtes, chercheur interdisciplinaire et très indiscipliné, éminent penseur de la complexité. Vous êtes, Edgar Morin, docteur honoris causa de 24 universités à travers le monde. Vos ouvrages, on peut citer La Voix, La Méthode, sont des références. Vos conférences font salle comble sur tous les continents. Peut-être parce que vous avez su garder les curiosités de l'enfance et les interrogations de l'adolescence, ça se voit dans votre œil qui pétille. Et c'est ce que vous dites dans votre dernier essai paru chez Fayard, Connaissance, Ignorance, Mystère, dans lequel vous citez en exergue le philosophe Friedrich Schlegel qui augmente sa connaissance, augmente son ignorance. C'est votre cas, Edgar Morin ?
Oui, c'est la formule la plus dense, vraiment, de ce qui arrive dans l'aventure de la connaissance, puisque celle-ci, en nous éclairant, c'est comme une allumette qu'on allume dans l'obscurité, nous donne une lueur et nous fait découvrir autour de cette lueur une énorme obscurité. Et prenez par exemple les sciences de l'univers, ils nous ont montré que dans cet univers-là, maintenant, on ne connaît que 4% de cet univers qui est matériel. Le reste, on l'attribue encore à des mots comme matière noire, on ne sait pas. Donc on a l'inconnu. Et qu'est-ce qui s'est passé à la naissance de l'univers? Comment est-il né? Est-il vraiment né? À nouveau, mystère. Donc si vous voulez, on découvre des choses insondables dans cette aventure merveilleuse, l'aventure de la connaissance, parce que la découverte de l'inconnu et du mystère au sein de l'inconnu ne dévalue absolument pas la connaissance. On a découvert beaucoup de choses, mais par exemple, je ne sais pas, on sait maintenant comment une chenille se transforme en papillon dans la chrysalide, mais on sait beaucoup de choses, mais pourquoi un être rampant a pu-il se transformer, avoir des ailes? Ça reste un grand mystère. C'est-à-dire, quelle est cette créativité qui a existé dans la nature qui fait qu'à un moment donné, les plantes ont explosé en fleurs? C'est aussi un mystère. Alors donc, si vous voulez, nous sommes toujours devant une inséparabilité entre la connaissance, l'ignorance et le mystère. Ce ne sont pas des notions... Bien sûr, quand on connaît, on élimine une vieille ignorance naïve, mais en même temps, on produit une nouvelle ignorance consciente et qui est peut-être une acquisition très très grande, c'est-à-dire nous ne sommes pas des êtres voués à l'omniscience. Vous savez, le rêve un peu fou de la civilisation occidentale, c'était l'homme maître de la nature, maître et possesseur de la nature, conquérant de l'univers, et par là même dont l'esprit scientifique allait tout élucider. Or, on a commencé à comprendre que même nos sciences, plus elles ont avancé, prenez la microphysique, arrivent à des paradoxes incroyables, c'est-à-dire qu'à ce niveau, notre temps n'existe pas, notre espace n'existe pas, on peut être ici et ailleurs en même temps. Donc, si vous voulez, c'est ça qui est extraordinaire dans cette
Ça a l'air de vous réjouir aussi, Edgar Morin, parce que c'est un vrai paradoxe. Vous avez passé votre vie de chercheur à essayer de comprendre, de connaître la réalité. Et vous reposez aujourd'hui cette question, finalement, que peut-on connaître de la réalité? Et ça a l'air de vous faire plaisir qu'il y ait du mystère, finalement, au bout. Et toujours et encore, et toujours plus de mystère.
Eh bien, écoutez, votre question en suppose une autre. Qu'est-ce que la réalité? Et moi, je crois que quand on fouille un peu cette question, on voit apparaître plusieurs niveaux de réalité. C'est-à-dire, vous avez une réalité microphysique qui n'est pas la même que la réalité de notre monde physique, laquelle n'est pas la même que celle du cosmos.
Plusieurs niveaux de réalité.
Vous avez, bon. Et moi, je crois que nous, en tant qu'êtres humains, bon, vous avez une réalité sensible. Moi, je suis actuellement dans un studio avec vous, je vous vois, etc. C'est incontestable. Mais cette réalité-là, elle est une réalité provisoire qui va changer avec le temps. Et de plus, si vous voulez, on peut se demander, comme l'ont fait les philosophies hindouistes ou bouddhistes, si cette réalité n'est pas, disons, fluide, n'est pas ce qu'ils appellent la Maya ou le samsara, un monde d'apparence.
Une illusion, une apparence.
Mais moi, je crois, non, je ne pense pas que c'est une illusion, ce sont des apparences vraies, mais qui ne sont pas la réalité de la réalité. La réalité, on ne la connaît pas. Mais ce que moi je peux dire, je crois, c'est que pour nous autres, êtres humains, notre réalité la plus profonde, elle est dans nos sentiments, c'est-à-dire l'amour, la joie, la souffrance, le malheur. Ça, c'est notre réalité indubitable. Qu'à l'échelle du cosmos, le cosmos s'en fiche, je n'en sais rien, que ça semble quelque chose de très second, peut-être, mais nous, c'est notre réalité. Alors donc, moi, je crois que la question sur la réalité est très importante, parce qu'il faut savoir que ce que nous croyons de plus stable, quand on y réfléchit, eh bien, se dissout, et on voit apparaître plusieurs types de réalités. Et il faut savoir ceci, nous avons quand même une incertitude, une ignorance de savoir s'il y a une réalité de la réalité. D'ailleurs, quand on pense que ce qui nous enveloppe, que le monde est issu de ce qu'on appelle un vide qui comporterait évidemment des énergies virtuelles infinies, mais un vide, alors on peut se dire, mais d'ailleurs c'est ce que dans le fond le bouddhiste dit avec le nirvana, est-ce que la réalité n'est pas le vide, n'est pas quelque chose de vide? Mais ce sont des interrogations, moi je ne donne
aucune... Et ça restera
aucune...
toujours des interrogations.
Voilà, on arrive à ces interrogations, mais c'est intéressant de savoir que, dans le fond, on ne vit pas sur une réalité absolue, certaine, qui nous semble évidente, que ces évidences elles-mêmes à la réflexion peuvent justement diminuer, se racornir et nous mettre devant, à nouveau, le mystère.
À nouveau le mystère. La première phrase de votre essai, hein, connaissance, ignorance, mystère, c'est « j'aime connaître ». Malgré tout, vous aimez connaître. Pourquoi? Pour vous continuer toujours au mystère, enfin pour ouvrir nouvelles ignorances et vous réaffronter au mystère?
Vous savez, non, au début, j'aimais, enfin, j'aime toujours connaître parce qu'une connaissance apporte quelque chose de positif. Là, par exemple, aujourd'hui même, je viens de lire une recherche qui m'a intéressé, qui montre que des souches microbiennes se développent dans des lieux différents en même temps, comme si elles étaient en interaction, comme dans la microphysique. Alors, voilà quelque chose qui me frappe beaucoup, voilà une nouvelle connaissance si elle se vérifie, et en même temps je dis, mais alors, notre réalité est encore plus mystérieuse que je le pensais.
Encore plus mystérieuse, et ça vous émerveille, parce qu'il y a ce sentiment, cet émerveillement quand même à chaque nouvelle découverte, à chaque nouvelle élucidation, à chaque nouvelle lecture. Vous avez cet émerveillement devant la science, vous êtes un chercheur, un philosophe transdisciplinaire et très intéressé par toutes les sciences.
Oui. C'est-à-dire que là aussi, vous savez, moi je me suis lancé dans l'aventure de la connaissance. Quand je me suis inscrit à l'université, j'étais dans une époque très troublée, c'était la guerre venait d'éclater, et je me disais, mais qu'est-ce que nous sommes, nous autres êtres humains, qu'est-ce que c'est que la société, qu'est-ce que c'est pour qu'on soit affronté à de telles choses? Donc je me suis dit, je vais interroger savoir ce que c'est que l'humain. Alors je me suis intéressé en philosophie, en histoire, en économie, en sciences politiques, tout ça. Et il y a une chose qui m'est arrivée, m'interroger sur l'homme. Mon premier gros travail s'appelle « L'homme est là-bas ». Ben, je me rends compte qu'à ce moment-là, deux choses qui ne m'étaient pas apparues fortement. La première, c'est que la mythologie joue un rôle énorme dans toute l'histoire humaine depuis les sociétés primitives et dans les religions et partout. C'est-à-dire, la part de l'imaginaire et du mythe est énorme. Chose que j'avais sous-estimée parce que j'avais une vision beaucoup plus croyant seulement aux forces matérielles et économiques.
De la raison, il n'y a pas que la raison.
Et la deuxième chose, c'est de me rendre compte que quand je traite de la mort, que nous vivons la même chose que tous les autres vivants ou animaux, nous mourons. À la différence des autres vivants, nous pensons qu'il y a quelque chose après la mort, enfin, quand on a une religion. Et à la différence des autres animaux, nous entretenons pendant notre vie un sentiment d'horreur à l'égard de la mort. Mais en même temps que nous sommes capables de risquer nos vies, bien que c'est la chose la plus épouvantable pour l'individu, pour notre famille, pour nos enfants, pour notre patrie.
Donc on est capable de dépassement.
Voilà. Donc si vous voulez, je m'interroge sur l'humain. Alors je découvre qu'on est des êtres biologiques. Et par la suite, quand il y a eu la découverte de Crick sur l'ADN, c'est une découverte que montre que le vivant est entièrement fait de matière physico-chimique, de molécules. Donc nous sommes des êtres physiques aussi. Et à ce moment-là, la science, fort heureusement, et c'est pour ça l'importance de la connaissance, nous montre que les particules qui constituent nos atomes, lesquelles constituent nos molécules, ces particules sont peut-être apparues au tout début de l'univers. Donc nous portons en nous toute l'histoire de la vie, toute l'histoire de l'univers, mais d'une façon très singulière.
Un sacré mystère. Hein. Autour de la question « Que peut-on connaître de la réalité ?», je vous propose, Edgar Morin, d'écouter Alpha Blondie sur RFI. Mystère naturel, ça devrait vous plaire.
Il y a un mystère naturel qui souffle dans l'air. Si tu écoutes prudemment, tu entendras l'air. C'est le premier avertissement, mais sûrement le dernier. Beaucoup d'hommes vont souffrir, beaucoup d'autres vont mourir. Demande pas pourquoi. Les choses ne sont plus ce qu'elles étaient. Je ne vous mens pas. Chacun doit affronter la réalité. J'ai beau essayer de trouver des réponses aux questions posées, j'ai beau essayer d'expliquer que le temps n'a jamais existé, je ne vous mens pas. Il y a un mystère naturel qui souffle dans l'air. Le souffle, c'est le temps. Tu écoutes prudemment, tu entendras l'air. Un tel mystère naturel qui souffle dans l'air.
Premier. Alpha Blondie sur RFI, mystère naturel, c'est pour vous Edgar Morin, en résonance avec votre dernier essai,
tout
connaissance, oui ça résonne. Hein.
Oui tout à fait.
Vous avez tapoté en rythme sur la table.
Oui.
En résonance donc avec votre dernier essai, connaissance, ignorance, mystère, autour de la question que peut-on connaître de la réalité? Une nouvelle question pour vous, soulevée par une jeune passeuse de science, elle s'appelle Florence Porcel, elle officie avec beaucoup d'humour sur sa chaîne YouTube, on l'écoute... sur l'univers, elle vous pose une question.
Étienne Klein m'avait dit un jour, quand j'étais étudiant, on connaissait 100% du contenu de l'univers. 10 ans plus tard, on n'en connaissait plus que 10% et aujourd'hui, c'est 4,9%. Est-ce qu'Edgar Morin a par hasard l'impression que c'est pareil pour la réalité? Est-ce que quand il était petit, il avait l'impression d'appréhender 100% de la réalité et qu'aujourd'hui, c'est plus que 4,9%?
Votre réponse, Edgar Morin?
Bien, mais écoutez, il y a une chose que nous savons, par exemple, notre perception visuelle ne capte pas les l'infrarouge et l'ultraviolet. Notre perception auditive ne capte pas les infrasons. Autrement dit, il y a toute une part de notre réalité du monde extérieur que nos sens ne captent pas, mais nous pouvons avoir des instruments scientifiques qui les captent. Et nous ne savons pas jusqu'à quel point nous connaissons cette réalité extérieure, parce que prenez par exemple, ce n'est qu'au 19e siècle qu'on a détecté ce qu'était l'électricité avec Maxwell. Mais jusqu'à présent, on voyait bien la foudre, on voyait bien des phénomènes électriques, mais on ne savait pas les nommer. Donc si vous voulez... Il reste toujours, même dans la perception la plus banale, nous ne voyons qu'une partie des choses. Et aujourd'hui, la science qui est la plus développée, avec ses énormes instruments de détection, ses lunettes astronomiques et formidables, eh bien écoutez, ils ont découvert qu'on ne connaît que 4% de la réalité de l'univers qui est notre matière, et le reste on ne sait pas et on spécule là-dessus. Il faut penser que l'inconnu est présent dans le connu et que l'invisible est présent dans le visible.
Il faut le penser parce que vous dites aussi que nous sommes à une époque d'avancée formidable des connaissances en science, mais aussi de régression de la connaissance.
Alors ça c'est une autre question, parce que en réalité les connaissances ont progressé au sein de spécialisations. Et la tendance des spécialisations est de se fermer sur elles-mêmes et ne donner aux spécialistes qu'une connaissance très précise de son secteur, mais en ignorant les communications naturelles de son petit secteur avec le système extérieur dont elle fait partie. Donc, aujourd'hui, nous avons le règne de spécialistes, notamment des experts. Et prenez un problème comme la mondialisation. Qu'est-ce que c'est que la mondialisation? C'est un jeu de combinaisons incessantes entre des processus économiques, politiques, religieux, psychologiques, etc. Enfin, démographiques, géographiques, etc. Donc, mais si vous juxtaposez les rapports des géographes, des économistes, etc., sociologues, vous ne comprenez rien. Et le drame, c'est que nous avons énormément de connaissances, mais c'est leur disjonction qui crée une nouvelle myopie, ou plutôt un aveuglement particulier. Bien entendu, la quantité de connaissances qui est sans cesse croissante rend impossible pour un esprit de les engrammer. Et bien entendu, il y a des machines qui peuvent les engrammer, mais sans pouvoir nous donner la synthèse. Donc, nous sommes obligés, c'est une aventure la connaissance, de sélectionner celles qui nous semblent les plus importantes, les plus fondamentales, et de travailler là-dessus. Nous sommes obligés de faire des paris cognitifs en faisant, moi, ce que j'appelle une connaissance transdisciplinaire, en circulant dans les disciplines. J'étais obligé, les questions que je me posais, qu'est-ce que c'est que l'homme? Qu'est-ce que c'est que la vie? D'aller circuler dans toutes les disciplines.
Pour comprendre cette complexité, hein, vous êtes le penseur de la complexité, il ne faut pas simplifier outre mesure. Notre monde est complexe, la vie est complexe, les connaissances sont complexes.
Bien sûr, et puis il faut avoir des instruments de pensée capables de saisir cette complexité. C'est ce que j'ai essayé d'élaborer dans mon travail qui s'appelle La méthode, c'est-à-dire donner aux gens des instruments qui permettent de relier efficacement des choses qui n'arrivent pas à relier. Mais ça, je ne peux pas l'expliquer en quelques minutes.
Say you don't know. Say I don't know. Say you don't know. If tongues must speak, just say this. Say that you're lost. Say I'm lost. Say that you're lost. If truth be told, tell me this. Things that never change are better left unsaid. You need to let them go to let you get ahead. When words crowd in, let them go. Whisper to the wind, I don't know. There's a gap, no, there's a gap, a crack where love flows on tap. Things that never change are better left unsaid. You need to let them go to let you get ahead. When words crowd in, let them go. Whisper to the wind, I don't know.
Pierce Fassini sur RFI. Say you don't know. Autour de la question du mystère de la connaissance et de l'ignorance, pour reprendre le titre d'un des derniers essais du philosophe et sociologue Edgar Morin, une des grandes voix de la recherche à qui nous redonnons la parole cet été, vous proposant de réécouter l'entretien que ce formidable penseur transdisciplinaire et très indiscipliné nous avait accordé en mai 2017. Il n'avait alors que 96 ans. Il approche aujourd'hui des 100 ans avec le même œil vif, la même pertinence et la même profonde humanité. Il continue de s'interroger en esprit libre et curieux, citant en exergue le philosophe Friedrich Schlegel qui augmente sa connaissance, augmente son ignorance. À méditer en écoutant un autre philosophe, Roger Paul Droit, interroger Edgar Morin sur la connaissance, l'ignorance et le mystère.
Comme chacun sait, Socrate disait « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Il professait donc avoir un savoir de sa propre ignorance. Quelle est, pour vous, la nature de ce savoir ?
Votre réponse, Edgar Morin.
Le savoir de sa propre ignorance est, à mon avis, un point de départ. Et par exemple, je prends le problème de la connaissance de soi, là aussi qui est une injonction très socratique, connais-toi toi-même. Or, nous avons une grande difficulté à nous connaître. Pourquoi ? Parce qu'en chacun, il y a ce que les Anglais appellent la self-deception, c'est-à-dire le mensonge à soi-même. On tente à se donner à soi-même le beau rôle dans les choses, on atténue pour soi-même les choses négatives ou vilaines que l'on a faites. Enfin, on tente à se donner belle figure à soi-même d'abord, et donc on se ment à soi-même, ce qui est un phénomène non pas exceptionnel, mais je dirais assez fréquent. D'autre part, il y a entre nous des zones, au sein de nous, des zones d'inconscience profonde. D'ailleurs, le sens un peu de la psychanalyse ou des différentes psychanalyses, c'est d'avoir détecté que, justement, la conscience d'un individu, d'un esprit, est quelque chose qui est à la surface de lui-même, mais que mieux se connaître, c'est une chose très difficile. Et l'inconscience, c'est pas seulement des désirs, des aspirations qui peuvent être superbes ou au contraire horribles, mais l'inconscient de nous-mêmes, c'est que nous sommes une machine qui fonctionne totalement de façon inconsciente. Par exemple, je peux, d'une façon consciente, manger une bouchée de pain. Mais dès que la salive l'a déglucisé et que ça rentre dans mon tube digestif, tout un processus inconscient fait pour assimiler cette bouchée de pain, la bile se déclenche sans que j'en sois conscient, et tout ça fait un trafic extraordinaire. Mais d'ailleurs, mon cœur bat sans que je sois conscient, toute ma machine de milliards de cellules fonctionne sans que je sois conscient, donc c'est ça qui quand même est tout à fait extraordinaire. Il y a une très belle phrase de Héraclite, le philosophe de 6 siècles avant notre ère, qui disait, en parlant de nous autres humains, « éveillés, ils dorment ». C'est vrai que nous sommes en grande partie des somnambules et que la conscience est cette chose un peu, cette petite flamme vacillante qui est, sort de notre esprit ou de notre cerveau, l'un étant la même chose que l'autre, mais qu'un souffle violent d'air peut complètement étouffer. Nous avons vu, par exemple, que dès qu'arrive une guerre, les gens qui sont pacifiques et débonnaires souvent entrent dans un état d'hystérie et de fureur contre l'ennemi qu'on découvre héréditaire. Donc, si vous voulez, c'est cette part profonde de l'inconscience qu'il s'agit de détecter, de reconnaître, c'est ça qui est très important.
C'est ça notre rôle en tant qu'être humain. Enfin, vous diriez que notre rôle est d'essayer de devenir de plus en plus conscient.
Mais écoutez, la conscience, c'est l'ultime conquête, si vous voulez, le produit suprême, la fleur de l'esprit humain. Autrement dit, la conscience, c'est quelque chose. Et comme les produits les plus précieux, les plus ultimes, sont en même temps les plus fragiles. Et tout le problème d'un progrès humain, ça serait de fortifier notre conscience, de la rendre moins fragile, ce qui nécessite... Moi, je pense que nous sommes encore dans la barbarie de l'esprit humain, que cet esprit humain n'a pas encore développé toutes ses facultés, et c'est pour ça que nous avons ces zones dont nous sommes inconscients, qui sont aussi des zones de profonde barbarie.
Vous, Edgar Morin, qui étudiez, vous parlez dans votre livre aussi des sciences du cerveau, des neurosciences. Oui. C'est quoi ? On essaye de comprendre notre propre fonctionnement. C'est nous-mêmes qui essayons de le comprendre. Donc là encore, on se retrouve devant plus de connaissances, mais aussi plus d'ignorance et du coup du mystère insondable pour notre petit cerveau, j'ai envie de dire.
C'est-à-dire que nous faisons quand même des acquisitions très positives. Par exemple, Damasio ou Jean-Didier Vincent, qui sont des neuroscientifiques qui ont étudié le fonctionnement du cerveau, ont détecté que quand un centre rationnel se met à travailler, par exemple un mathématicien qui fait des mathématiques, aussitôt un centre émotionnel est activé. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison sans émotion, c'est-à-dire éventuellement passion. Donc si nous savons ça, nous savons qu'à ce moment-là, qu'il n'y a pas une raison froide et glacée en nous, mais qu'elle est toujours traversée de passion et parfois détournée par la passion. Vous savez, c'est Adorno et Horkheimer qui ont montré que la rationalité technique et scientifique peut être mise au service du crime, c'est-à-dire du camp de concentration nazi. Donc, si vous voulez, notre raison peut être instrumentalisée pour le pire. Donc, quand nous savons ça, nous faisons d'énormes progrès, mais nous montrons aussi à quel point nous ne maîtrisons pas notre être. Et c'est ça, nous sommes capables d'agir peut-être plus lucidement, c'est-à-dire de lier toujours la raison et la passion. Parce que la passion...
D'être quoi, sur l'équilibre, sur le fil entre les deux, de savoir qu'on est entre raison et passion.
C'est-à-dire que nous risquons, si nous avons la passion sans raison, de sombrer dans le délire, et si nous avons la raison glacée, sans passion, eh bien écoutez, c'est la domination du calcul, des big data, des algorithmes, c'est-à-dire quelque chose d'inhumain. Il y a deux barbaries, la barbarie du calcul et la barbarie de la folie humaine, du fanatisme des terroristes. Donc c'est ça. Et donc ça nous incite à mieux connaître l'être humain, de comprendre que Homo sapiens, c'est-à-dire l'homme, n'est pas seulement raisonnable, c'est aussi Homo demens, c'est-à-dire que la folie est l'autre pôle de la réalité humaine et c'est pas seulement les dingues qu'on met dans les asiles.
Nous sommes tous cela.
Bah écoutez, quand nous avons une crise de colère, nous sommes fous. Parfois, nous pouvons avoir des délires politiques. Nous voyons un type qui se fait exploser et qui fait sauter des gens. C'est le comble de la folie. Donc, si vous voulez mieux connaître la réalité humaine, c'est reconnaître son côté complexe, son côté contradictoire. Et moi, une chose qui m'a toujours... D'ailleurs, c'est ça la leçon que j'ai tirée de Héraclite comme de Gell, c'est que on arrive à une vérité importante quand on arrive à des contradictions. On arrive à deux vérités contraires qu'il faut assembler en même temps.
Et là on tient le bon bout. Là, on arrive à quelque chose. Voilà. Avec deux contradictions. Nous sommes faits de contradictions.
Oui.
Autour de la question, que peut-on connaître de cette réalité, justement? Et pourquoi laisser toute sa place au mystère? Je vous propose un nouvel éclairage, Edgar Morin, en forme de question, soulevée par un cosmologiste et philosophe. Il s'appelle Aurélien Barraud et lui aussi aime bien penser l'impensable. Des trous noirs au multiples. On l'écoute.
Je pense au philosophe Jacques Derrida qui, dans son bel ouvrage « La littérature au secret », évoquait cette espèce d'accointance entre le mystère, la pensée, la religion peut-être, le mythe et même la connaissance en général. Il évoquait ce qu'il nommait le « mysterium tremendum », je crois, en suivant Kierkegaard, c'est-à-dire cette espèce de mystère absolu, de mystère abrahamique, comme ça, dont on ne peut jamais venir à bout. Et donc la question que je me pose, c'est finalement l'existence du mystère n'est-il pas la condition de possibilité d'une connaissance.
Je vous vois sourire, Edgar Morin, à cette question philosophique, métaphysique de l'astrophysicien Aurélien Barraud.
Écoutez, la possibilité, à mon avis, d'une connaissance n'est pas du mystère. Et je dirais que, d'après ce que nous pouvons savoir, elle naît de la vie. C'est-à-dire... Les premiers êtres vivants qu'on peut supposer être des premiers êtres cellulaires, ce sont des êtres qui, ayant besoin d'utiliser l'énergie pour trouver leur alimentation, pour se nourrir, etc., pour se connaître, c'est comme nous, même quand nous dormons, nous sommes des êtres qui activons notre cœur, nos poumons, nos cellules. Donc on a besoin... Si on ne se ravitaille pas en énergie extérieure, on meurt. Dès le début, l'être est affronté au danger de mort. Et sans arrêt, l'être vivant refoule la mort, combat la mort, y compris comme nous-mêmes avec nos cellules qui peuvent se suicider pour faire place à des cellules plus jeunes. C'est-à-dire que nous pouvons utiliser la mort pour continuer notre vie. Donc, si nous avons cette sorte de paradoxe, donc au début... notre connaissance naît de la nécessité de survivre. Mais une fois que cette connaissance est née et qu'elle s'est développée, notamment dans l'espèce humaine, elle a tout de suite est arrivée à l'étonnement et au mystère. D'ailleurs, on disait que la philosophie est née de l'étonnement. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Qu'est-ce que c'est que ce soleil? Qu'est-ce que c'est que la lune? Pourquoi les étoiles, etc.
Qu'est-ce que c'est que cette beauté aussi? Qu'est-ce que c'est que cette beauté, cette
la
créativité?
Beauté, bien sûr, bien sûr. Et nous sommes d'ailleurs devant un monde qui est à la fois terrifiant, parce qu'il y a des étoiles qui explosent, il y a des tamponnements de galaxies, il y a des désintégrations sans arrêt, et qui est émerveillant, par tout cet aspect. Dans le fond, là encore, je reviens à Héraclite, qui disait qu'il faut joindre concorde et discorde pour comprendre le monde, c'est-à-dire l'ordre, le désordre, le lien et la séparation. Et c'est ça, ou ce que Freud appelait la lutte permanente d'Eros, qui est la liaison, la fusion, et contre Thanatos, qui est la dispersion, qui est la mort. Donc, cet univers est à la fois merveilleux et terrifiant. Et moi, je pense qu'il faut avoir les deux sentiments. Il faut s'émerveiller de cet univers sans comprendre pourquoi, qu'est-ce que c'est ce mystère. Mais en même temps, cet émerveillement nous donne, à mon avis, la force de lutter contre ce qu'il y a de plus cruel dans la vie de l'humanité et des sociétés.
Il y a une responsabilité aussi, tant qu'être humain, de connaître, de comprendre mieux, de s'émerveiller, mais il y a une responsabilité aussi.
C'est une responsabilité parce que ça nous donne... Il faut que la vraie connaissance voit les deux aspects contradictoires de la réalité. Quelque chose de superbe et quelque chose d'horrible. Et à ce moment-là, devant le superbe, nous avons nos plus belles émotions, c'est-à-dire l'émotion poétique, qui est une qualité de la vie extraordinaire qu'il faut cultiver.
Vous dites que c'est une qualité de la vie, la poésie, enfin la poétique, oui. Que c'est probablement une des premières qualités de la vie. C'est vrai, quand on regarde la nature, c'est beau, il y a des couleurs, il y a des...
Mais oui.
Vous parlez de poésie.
Mais oui. Et on peut se demander, justement, parce qu'on a voulu donner des explications banales, pourquoi les oiseaux mâles, par exemple, ont de très belles parures. On dit, mais oui, c'est pour séduire les femelles. Sans doute, mais ils utilisent leur beauté pour séduire. C'est comme, si moi, je veux séduire quelqu'un, je me sape bien, je me mets dans mon costume, je coupe bien mes cheveux, je m'arrange pour être beau, enfin le moins moche possible. Donc, si vous voulez, on peut dire que c'est aussi dans la vie. C'est mystérieux, cette beauté qui apparaît. C'est extraordinaire.
Et vous dites qu'il faut faire le choix de vivre poétiquement.
Oui. Parce que nous sommes toujours, nous avons deux pôles. Le pôle prosaïque de la vie, c'est-à-dire les choses obligatoires que nous devons faire par contrainte, qui ne nous plaisent pas. Et les choses poétiques qui sont la communion, l'enthousiasme, l'amour, le plaisir, le partage, etc. Or, à mon avis, la vraie vie, c'est la vie poétique, l'autre c'est les contraintes que nous faisons pour survivre. Et je fais une grande différence entre survivre, c'est la prose, et vivre, c'est la poésie.
Ben, je vous propose de vivre avec nous, Edgar Morin, sur nos ondes. C'est votre choix musical, vous avez choisi d'écouter Ravel, extrait de la danse légère et gracieuse de Daphnis. La danse de Daphnis, de Ravel sur RFI, pourquoi ce choix musical? Pourquoi ce choix musical, Edgar Morin?
J'adore Daphnis et Chloé, c'est un de mes morceaux préférés.
Pour la beauté, hein, pour l'invisible dans le visible, pour les émotions que ça suscite.
Voilà, exactement. C'est une splendeur. Et ça appelle aussi quelque chose de cosmique, c'est quelque chose qui nous plonge dans la nature, c'est ça.
Cosmique, dans ce monde complexe, vous êtes aussi le penseur de la complexité, Edgar Morin. Alors comment agir sur le monde et dans notre monde, aussi complexe soit-il? C'est la question que vous pose Sarah Marniès, qui dirige le département pour la mobilisation des savoirs à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement.
C'est une question de méthode, en fait, face à cette complexité, à cette imbrication des faits, des phénomènes, comment ne pas sombrer dans l'inaction et comment prendre des décisions, faire des choix, aider à la décision, parce que c'est ce dont on a besoin. Il faut décider aujourd'hui, donc quelle méthode on applique pour ne pas sombrer dans l'inaction.
Votre réponse, Edgar Morin, de penseur engagé, indigné parfois aussi.
La première chose, c'est qu'il faut prendre conscience que toute décision est un pari. Pourquoi c'est un pari? Parce que dès qu'une action est lancée, elle entre dans un milieu donné, que ce soit un milieu social ou un milieu naturel, dans lesquelles elle est soumise à des interactions, à des pressions, à des rétroactions, et qui peuvent en modifier le sens. D'ailleurs, on le voit très bien que quand un chef d'État décide d'une guerre et qu'il croit que cette décision va lui donner la victoire, on voit souvent que c'est l'inverse qui se produit parce qu'il n'a pas, il a eu la certitude et il n'a pas compris qu'il a fait un pari. Alors, ça c'est une première chose.
Toute décision est un pari, est un choix.
Est un pari. À ce moment-là, ça veut dire qu'il faut effectivement essayer d'étudier au mieux possible les conditions dans lesquelles on va agir. Mais nous savons que l'esprit ne peut pas contrôler toutes les conditions, et notamment le futur. Alors, une fois qu'on a fait le pari, il faut faire une stratégie. Qu'est-ce que c'est qu'une stratégie ? Une stratégie, c'est le contraire du programme. Un programme, c'est vous décidez une série d'actions déterminées à l'avance que vous suivez aveuglément. Ça, vous pouvez le faire dans un milieu clos et dans un milieu stable.
Une stratégie, elle change selon elle s'adapte à ce qui se passe.
La stratégie peut se modifier en fonction des hasards qu'elle rencontre et des informations qu'elle peut recueillir. D'ailleurs, c'est un mot qui vient de l'art de la guerre, parce que c'est l'art de l'incertain. Parce que quand vous faites la guerre, c'est le même que quand vous êtes pour vous entraîner une équipe de football, il ne s'agit pas seulement de pouvoir avoir une stratégie de jeu, il faut avoir la stratégie en fonction de ce que vous pensez être la stratégie de l'adversaire, lequel fait la même chose pour vous. Donc il faut avoir une stratégie très flexible, très mobile, il y a toujours dans l'action un aléa. Vous savez, c'est ça qui est le problème. L'être humain, pour les décisions importantes, notamment pour l'avenir qui n'est jamais écrit d'avance, doit prendre décision avec le minimum de conscience, et notamment la conscience qu'il fait un pari. Et s'il se rend compte que son action sert à dévier de sa route, elle est mauvaise, c'est ce qui est arrivé par exemple pour des missiles de la NASA qui sont faits fausse route, on les torpille. Mais beaucoup de gens, par exemple, quand ils auraient dû se rendre compte que, par exemple, je prends un exemple sous l'occupation, qui au début ont cru que la collaboration c'était quelque chose qui sauvait l'honneur, qui sauvait les meubles, etc. Une fois que certains du reste, quand ils se rendent compte que c'est de la mauvaise route, hop, ils ont changé, ils ont pris une partie de la résistance.
Ce que vous nous dites, Edgar Morin, c'est qu'il faut constamment être capable de se remettre en question. C'est quand même ça.
Il faut être toujours vigilant, être capable de réviser sans arrêt sa stratégie. Ça demande une activité permanente de l'esprit. C'est vrai, c'est un risque. Mais nous sommes, dans le fond, le vrai problème, l'être humain, il doit affronter les incertitudes. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on n'enseigne pas dans les écoles à affronter les incertitudes.
Et comment on peut enseigner à affronter les incertitudes ? On a compris que c'est un pari, qu'il y a une stratégie. Comment est-ce qu'on peut... Apprenez-nous un peu ça, car moi, on a tant besoin aujourd'hui.
Mais vous savez, on commence à apprendre aux enfants qu'ils ne savent pas quel métier ils auront, ils ne savent pas d'avance s'ils auront des maladies, ils ne savent pas d'avance que le choix du partenaire qu'ils prendront quand ils se marieront, etc., que leur vie est un tissu d'incertitude et qu'ils doivent faire de façon réfléchie leur propre pari en prenant conseil aux gens en qui ils ont confiance, en étudiant un peu la situation, en connaissant leurs propres souhaits. Il est évident que pour choisir un métier, il faut choisir le métier qui essaye de correspondre à ses aspirations.
Donc en même temps, ces choix ou cette stratégie, elle n'est pas froide. On pourrait croire que c'est froid, mais ce n'est pas froid du tout.
Ah
c'est
non,
en essayant d'englober à la fois la raison et les sentiments. Exactement.
C'est quelque chose qui est d'abord qui nécessite toujours la vigilance, l'intensité, la passion pour ce que l'on fait, et en même temps une grande intelligence capable de saisir les changements qui arrivent dans la réalité pour s'adapter et se transformer en fonction de ces changements.
Et justement aujourd'hui, vous qui militez pour une conscience écologique, pour changer de vie et changer de voie,
oui.
Qu'est-ce qu'il faut qu'on change aujourd'hui ? Beaucoup de choses, j'imagine, dans notre monde. Quoi ? Être plus prêt à s'adapter au nord comme au sud ?
Mais écoutez, à mon avis, c'est la voie que suit la mondialisation actuelle est une voie qui est unilatérale, qui ne se rend pas compte que, disons, le développement de ces trois moteurs qui sont les sciences, techniques et économie provoque actuellement la dégradation totale de la planète, provoque en même temps le fait que beaucoup de cultures et de civilisations se sentent menacées par l'occidentalisation et se referment, et que dans le fond, nous allons vers des catastrophes. Alors, si nous commençons à penser des dangers de la marche actuelle de l'humanité, à ce moment-là, nous pouvons dire il faut quand même rendre un peu plus complexe. Par exemple, il ne faut pas seulement le développement technique et économique, il faut aussi l'enveloppement des gens dans la communauté, dans la solidarité. Il ne faut pas seulement la croissance, mais il faut voir ce qui doit croître et voir aussi ce qui doit décroître. C'est-à-dire toute une consommation de choses stupides, inutiles, que vend la publicité qui doit décroître. Et on doit croître, à mon avis, les choses saines, l'agriculture fermière ou biologique. On doit croître les produits qui ne soient pas jetables, mais qui soient réparables. Enfin, il y a beaucoup de... Si vous voulez... Quand on commence à voir, il faut complexifier la politique, et je dirais qu'il faut mondialiser et démondialiser, il faut être pour tout ce qui favorise la coopération et la culture dans la mondialisation, mais s'il faut sauver des territoires, il faut les sauver au besoin par des barrières douanières temporaires. Je pense qu'on a... La politique est victime d'une conception binaire. C'est ou ça, ou ça. En réalité, il faut combiner deux choses qui apparemment sont antagonistes, mais sont complémentaires.
C'est dans l'inespéré que réside l'espoir, hein, dites-vous, Edgar Morin.
Oui, parce que mon expérience m'a montré que c'est l'improbable qui a pu nous sauver à quelques reprises. Je vais aller très rapidement. Vous savez, l'offensive allemande sur l'URSS a commencé en juin 41, ils sont arrivés aux portes de Moscou en septembre, et là, il y a eu des pluies précoces diluviennes qui ont embourbé cette armée, puis un gel précoce diluvien qui les a empêchés de prendre Moscou. Et à ce moment-là, comme Staline a été avisé par son agent au Japon que les Japonais n'attaquent pas la Sibérie, Il a chargé le général Zhukov de transporter des centaines de milliers de combattants aguerris de Sibérie sur le front de Moscou. Il y a eu une offensive, la première victoire soviétique qui a dégagé Moscou. Et le lendemain, Pearl Harbor, où c'est l'Amérique qui entrait en guerre avec sa masse énorme. C'est-à-dire qu'en deux jours, le probable qui était la victoire du nazisme sur l'Europe commence à devenir improbable. Et l'improbable, l'inouï, qui était notre libération, commence à devenir probable. Et c'est comme quand il y a eu le putsch des généraux d'Alger. Vous savez, on aurait pu avoir une dictature de généraux comme il y a eu celle de Franco et les colonels grecs. On y a échappé aussi. Voilà.
Grâce à l'improbable et à l'inespéré, merci infiniment, Edgar Morin, d'avoir partagé cette heure en direct avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier essai chez Fayard, Connaissance, ignorance, mystère, à mettre résolument entre toutes les mains. Vous revenez quand vous voulez, Edgar.
Merci.
Autour de la question et des plus grandes voies de la recherche, rendez-vous lundi prochain pour notre dernière semaine de rediffusion estivale, où nous vous inviterons à garder l'esprit libre et ouvert pour parler d'amour, de physique quantique et de sciences ouvertes au Sud. Joli programme à suivre avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski au micro pour vous servir. Merci pour votre curiosité sans cesse renouvelée. Surtout, portez-vous bien, prenez soin les uns des autres. Vous êtes bien à l'écoute de RFI. Dans une minute environ, ce sera l'heure du prochain journal.